Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires.
Hey, salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. On va parler d'affaires, c'est bien sûr, on va parler plein de choses et intéressantes aussi parce qu'on a des êtres humains derrière ces entrepreneurs-là. Hein? Des fois, on se demande, ah, oh, le business, ça roule tout seul. Ben non, ça prend des gestionnaires, ça prend des êtres humains. Puis quand on dit entrepreneur, on dit aussi intrapreneur. Puis c'est ça que je voulais jaser aujourd'hui avec mon ami David Messi qui est avec moi. Salut David!
Hey, salut Régent! Très content d'être là. Merci beaucoup de l'invitation.
Ben merci à toi. Écoute, tu viens de Saint-Hyacinthe aujourd'hui en train, directement from tout Québec. Alors, ouais. Je suis bien content de t'avoir avec nous. David, je te l'ai dit un petit peu en entrant tantôt, j'avais le goût qu'on jase d'intrapreneuriat parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on parle pas assez dans le monde des affaires. Parce que souvent, on prend l'entrepreneur, on prend le gestionnaire, on dit le boss. Hein, le dirigeant d'entreprise est aussi important que le patron. Ça veut pas dire que quand t'es actionnaire ou pas actionnaire, il y a des dirigeants. Puis moi, ce que je trouve le fun de ton parcours pour te connaître depuis plusieurs années, c'est comme si toutes les entreprises dans lesquelles tu as travaillé, ben dis toutes, c'est comme si tu avais fait 25 entreprises. Mais... non, mais je veux pas te faire passer pour un gars instable, on va en avoir l'occasion d'en jaser en masse. Mais c'est comme si c'était à toi, l'entreprise. T'sais. Puis ça, ben les entrepreneurs, ils aiment ça. Puis les gens qui nous écoutent, des fois, qui se disent, ben moi, j'ai peut-être la même fibre que David comme intrapreneur dans une entreprise, mais j'ai pas le goût d'être le patron, d'être tu sais, la personne sur qui tout le monde va compter pour avoir le paye, tu sais. Alors, on va avoir l'occasion en masse de jaser de ça. David, moi, je veux savoir, puis nos auditeurs aussi, c'est toujours la même chose. On veut savoir, il vient de où, ce petit gars-là, quand il était jeune? Il faisait quoi? Puis il pensait-tu un jour de devenir où ce qu'il est aujourd'hui?
Ah, il vient de Saint-Hyacinthe, donc mascoutin d'origine. Donc, puis mes parents, rapidement, en fait, dès ma naissance, on a déménagé même dans un petit village en Grande-Baie, Saint-Hyacinthe, qui s'appelle Sainte-Cécile de Milton.
Okay.
Donc, à l'âge de 7 mois, en fait, mon père voulait avoir un chalet sur le bord de la Rivière-Noire. Finalement, le projet de chalet s'est transformé en résidence
à l'année. Bon.
Donc, c'est là qu'on a été. Puis quand tu es à Sainte-Cécile de Milton, bien évidemment, tu es entouré d'agriculture. Hein, donc, ouais. Et mes meilleurs amis du primaire, c'était là. Donc, on en arrivera certainement à la fin là, de mon parcours.
C'est drôle que le début vit la fin. Hein?
Ouais,
c'est drôle, là.
Oui, exactement. Mais j'ai toujours été un très grand passionné de sport aussi, un amateur de statistiques. Là, dans le Journal de Montréal, il y avait toujours le mardi là, où il y avait les statistiques de la LNH pendant l'hiver.
Au complet, deux pages. Hein?
Les deux pages, exactement. Puis c'était le baseball majeur l'été.
Oui.
Donc,
toi, tu passais ça au ping fin.
Au ping fin. Sport 30, oui. Toutes ces émissions-là, je les écoutais régulièrement. Donc,
mon rêve, en fait,
ben, je sais pas. On a une famille, on est une famille de sportifs à la base. Mon frère, c'est un très, très... D'ailleurs, c'est lui le talentueux de la famille au niveau sportif.
Oui.
Ma sœur, c'est celle, malheureusement, qui est au... On est trois enfants. Moi, je suis l'aîné. Mon frère, c'était le bébé. Puis ma sœur, ben, elle, c'est celle qui a payé pour être née entre deux sportifs.
Oui.
Parce que moi, j'ai joué au hockey, j'ai joué au baseball, oui. Tout ça. Donc, puis mon frère aussi, lui, il a joué au football, il a joué au baseball. Il s'est rendu jusqu'en la Ligue Baseball Élite du Québec.
Oh.
Donc, ouais, beaucoup, un bon... encore aujourd'hui, il est très bon, là, c'est...
un bon cogneur,
oui. Ben cogneur moins, mais bon, un excellent bras.
Ah oui.
Un joueur de défensive, joueur de chanson.
Chanson,
un bon lanceur,
c'est ça, j'allais dire.
Ça. Mes cousins aussi sont excellents au baseball. Donc, on a eu...
Fait que, tu sais, sportif comme ça, puis aller lire les stats, puis toute ta patente-là. Puis à un moment donné, tu t'es mis à écrire aussi, tu me comptais. Fait que,
ouais.
C'était quoi le but? Tu t'en allais vers où? Peut-être journaliste?
Ben justement, tu sais, je souhaitais atteindre les grandes ligues, tu sais, comme tout jeune, rêve de jeunesse, là, tu sais. Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas le talent qui allait m'y amener. Donc, je me suis dit, ben c'est de là qu'est venue la passion pour plus l'écriture, le journalisme. Puis, donc, j'étais en sixième année, on avait un journal à l'école primaire. Puis à partir de l'option secondaire 3, en fait, on avait une option communication au collège Antoine Giroir à Saint-Hyacinthe. Donc là, je me suis inscrit là. Je faisais la radio étudiante aussi. Puis, je me suis impliqué. On a eu aussi l'arrivée d'un club midget 3A, les Gaulois, du collège Antoine Giroir à l'époque. Aujourd'hui, les Gaulois de Saint-Hyacinthe.
Qui était plus là, qui était revenu. Ça se peut-tu?
Oui, c'est ouais. ça. Ben, on a eu le Laser junior majeur. Ouais. Puis là, il y avait des clubs, mettons, au niveau à Sorel, les Éperviers dans oui. le temps. Puis il y avait les Riverains. Et là, les Gaulois sont arrivés à Antoine Giroir. Puis, je me suis engagé avec l'équipe à leur deuxième saison comme statisticien.
Ah ouais.
Fait que ça m'a permis d'accompagner l'équipe sur la route. Puis là, ben moi, ça me permettait justement d'écrire des articles sur les performances de l'équipe, les joueurs. Je faisais des reportages à la radio locale, CFEI, à Saint-Hyacinthe, qui est devenu Boom aujourd'hui. Puis,
t'avais ce désir-là d'être le porte-parole, autrement dit, des chiffres puis des stats.
Absolument. Hein? Absolument. Fait que c'est une combinaison des deux. J'étais ouais. vraiment. Donc, je remercie encore les entraîneurs de l'époque, Simon, Mario, de leur confiance.
Ça, ben oui.
Puis ça a tissé des liens aussi. Puis quand, avec les Gaulois, je suis sur leur conseil d'administration encore aujourd'hui. Fait que c'est une implication quand même depuis presque 97-98. Mais ce goût pour le journalisme-là m'a amené à Jonquière. Je me suis inscrit à la technique de 3 ans en arts et technologie des médias.
Au collège de Jonquière.
Oui, exactement, au
cégep. C'est-tu là que tu as connu notre ami Stéphane?
La même Rouche? Pas. Non. Même pas. Non, ça a été vraiment à partir du moment que j'ai été chez Sport Saint, là avec la cage au sport, oui. que là, j'ai commencé à connaître Stéphane.
Ouais.
Mais quand même, mon passé à Jonquière m'a quand même permis de tisser des liens avec...
Ben oui.
On a eu des connaissances communes, là, tu sais, parce que encore là, là-bas, je me suis impliqué beaucoup. J'étais impliqué comme attaché de presse pour le tournoi Pee-Wee, donc qui était organisé par les policiers là-bas à Jonquière. Donc,
fait que toi, dans le fond, tu disais, tant qu'à me déplacer et aller étudier, t'as un côté, tu me corriges là, David, mais t'as un côté extroverti en même temps introverti, parce que tu sais, analytique, on va parler de chiffres, on va parler d'écriture, on va parler. Mmh. Mais t'as un côté où est-ce que tu veux te fourrer le nez partout. Tu sais, c'est ça qui est le fun.
J'ai toujours aimé m'impliquer.
Ouais.
J'ai toujours. Puis ça vient, je pense, depuis mon tout jeune âge. Là,
c'est le fun, c'est trippant parce que ça te permet, comme tu disais tantôt, de connaître du monde. Puis,
exact, puis de se créer un réseau aussi. Hein? Puis donc, mais c'est ça, c'est venu, on dirait, naturellement. Mmh. Puis ça encore aujourd'hui, ça fait partie de
ben oui.
je dirais, de ma vie, en fait.
De ton ADN,
donc,
hein?
Et c'est ça. Et puis, je suis chanceux, j'ai une femme qui est patiente. Donc, oui. ça permet de m'impliquer.
OK, fait que c'est elle qui t'endure.
Oui.
OK,
ça, c'est sûr.
Oui. Oui. Comment elle s'appelle?
Catherine. Simard, ouais.
Salut, Catherine, on la salue. Merci de nous avoir laissé David aujourd'hui avec
oui.
nous autres.
Oui, oui, oui.
Deux petits-enfants avec ça, là.
Exact. Oui, donc, oui, oui. Clara, une passionnée des chevaux en équitation.
Ah, oui.
Donc, on a découvert ce milieu-là wow. Depuis quelques années. Puis, Olivier, le sportif brillant. Oui. Donc,
lui, il va retenir des mononcles?
Je pense que
ma
oui.
tante?
Je pense que oui.
Bien, ma tante, tu me disais que ta sœur est entre les deux, t'es pas chanceuse.
Ma sœur a été moins... Je pense qu'elle a été plus le souffre-douleur. Ouais, c'est vrai, là-dessus.
Comment elle s'appelle?
Jade,
on la salue, Jade
ouais.
aussi. Pognante deux gars pour
Pognante deux gars, oui, exact. Puis,
deux sportifs.
C'est le cas de le dire. Mais ma cousine Kim est super sportive
oui.
aussi. Donc,
famille d'athlètes.
En tout cas, on est des grands amateurs de sport. Puis encore aujourd'hui, quand on se voit, c'est des... on joue au volley, on joue au tennis, on joue au badminton. On va jouer
oui, à un challenge de, tout le temps.
Toujours le petit esprit de compétition, ça, il est
oui,
très présent.
Il est toujours là.
Il est très présent dans la famille. Ouais.
Parlant de compétition, tu en as vécu des belles. Tu as été plusieurs années avec l'équipe Interbox
ouais.
Dans l'entourage de Luciane Buté, notre amie Luciane qu'on aime beaucoup,
mm-hmm.
qui nous a tellement fait vivre des beaux moments. De sport.
Vraiment.
C'est là qu'on s'est connus, d'ailleurs.
Aussi.
Parle-nous de ça. Ça te manque-tu, cette fibre-là, de dire... Parce que là, on va parler tantôt, naturellement, de ton nouveau défi des dernières années, mais c'était toute une adrénaline hein, qu'on sentait, puis qu'on...
Ah, c'est des années que je... Écoute, ça a été... C'est difficile à décrire parce qu'il fallait vraiment le vivre de l'intérieur pour vraiment... On a eu la montée avec Luciane, tu sais, Stéphane avec Jean Bédard avait vraiment un plan très précis pour lui, que ça l'a très, très bien fonctionné. Puis moi, mon arrivée dans la boxe, ça reste quand même anecdotique parce que j'ai fait les Jeux du Québec à Saint-Hyacinthe avec Jean Bédard, qui était président du comité organisateur 2003-2005. Et ensuite, à la fin des Jeux, j'ai proposé à Jean que si jamais tu as des postes en marketing, communication, j'aimerais bien pouvoir joindre l'équipe. J'ai bien aimé la collaboration, tout ça. Puis, il y a eu une ouverture au marketing. Donc, moi, je suis rentré en août 2005 au retour d'un voyage en Angleterre pour faire mon anglais, tout ça. Je rentre chez Sparsine, puis peut-être je rentre au mois d'août, puis au mois de novembre. Lucian, il était en préparation, lui, pour son combat contre Donnell Wiggins au Centre Bell. Puis, Eric Lucas devait se battre contre Kessler au mois de janvier. Puis le camp Kessler avait demandé qu'Éric soit présent au Danemark pour faire une tournée de promotion. Sauf que Stéphane n'était pas disponible, Jean n'était pas disponible, tout ça. Et comme par hasard, le VP de l'époque, François Saint-Pierre, entre dans mon bureau et me demande si j'ai un passeport et si je suis disponible pour la fin de semaine.
Tout arrivé d'Angleterre.
J'arrivais d'Angleterre, donc tout à fait. Oui, c'est sûr.
Oui, j'en ai un.
Donc, il sort du bureau, puis peut-être une trentaine de minutes plus tard, il revient, puis il m'annonce que je m'en vais au Danemark une semaine accompagner Éric Lucas pour la tournée de promotion.
Wow!
Mais là, je suis un amateur de sport. Je connais...
Oui, oui.
On va dire Éric de part de nom, mais tu sais, on s'est jamais rencontrés, on s'est jamais vus, on s'est même
là,
jamais parlé.
Il est champion du monde, là.
Il est en. À ce moment-là, il était. Il avait effectué.
Il est aspirant.
Il était aspirant à la ceinture qui était WBA à l'époque, Éric.
C'est ça.
Puis, c'est le vendredi, puis le samedi, je suis à l'aéroport, puis là, j'ai un crash course sur la boxe, un peu comment. Qu'est-ce que je dois faire, que je dois dire, à qui je dois parler, comment ça va se passer, les conférences de presse. Hein? C'est qui Kessler, que je ne connaissais pas du tout.
Absolument.
Donc, ça prend les tapes des combats à Kessler. Si tu ne donnes pas ceux d'Éric. Donc, c'était très sur le coin de la table à l'aéroport.
Tu prenais ça là, sur le tas. Là,
sur le tas, oui, exact. Donc, puis là, j'étais co-chambreur avec Éric. Fait que dans notre petit lit en Europe, les deux à Copenhague.
Des beaux moments.
Je le raconte, j'ai des frissons.
Ça a été tout qu'un grand boxeur québécois. Là,
absolument.
Éric Lucas, là.
Tu te ramasses avec un monument. Puis fin. Adorable. Ça a été mon baptême, si on veut, de la boxe avec tout ça. Puis là, j'ai appris à connaître Éric au travers de ça. Puis. Suivant cette belle semaine-là, mais c'est là qu'après j'ai commencé à m'impliquer sur les combats Interbox en étant chez Sparsine avec Jean. Donc, le premier combat que j'ai vraiment travaillé, là, c'est Lucien contre André Tissé. Le 24 mars, je pense, c'était 2006. Donc,
tu te souviens des dates?
Des dates marquantes.
Ben oui,
là,
ben oui.
Parce que
il y a quoi? Il y a une trentaine de combats, Lucian?
Moi, je suis parti en 2013. Après, j'ai un peu moins suivi.
Toi, t'étais peut-être
là,
une vingtaine.
Une vingtaine, oui, exact.
Quand même, hey, c'est quelque chose.
Lucian a commencé quoi, une série de 14 combats, 14 KO.
Le monde capotait, là.
Exact. Mais il était bien appuyé. Jean, Stéphane, leur plan était...
Ouais.
Puis, elle veut pas, il y avait Éric aussi qui était autour, qui permettait la montée de Lucian et tout ça. Donc, ça a été une expérience.
Je trouve qu'Interbox, puis à l'époque, en tout cas, je dis Interbox parce que quand on parle de Lucian puis de Stéphane puis tout ça, il y a un historique.
Oui.
Es-tu d'accord avec moi que quand Stéphane Ouellet a comme parti, à un moment donné, ils ont comme laissé l'entrée d'Éric Lucas qui était ticu, qui est devenu un homme, un monsieur respectable. Après ça, t'as eu Lucien Buté qui rentre. Tu sais, je trouve ça le fun d'amener justement moi, j'appelle ça des gladiateurs parce que c'est tellement des grands hommes pour moi. Puis de laisser la place à l'autre.
Hein, ouais.
Puis de rester dans l'équipe.
Mais exactement, il y avait une continuité, puis il y avait une préparation. Éric, justement, c'était structuré. Mm-hmm. Puis de là, je pense vraiment l'implication. Puis Stéphane était bien entouré, Jean était bien entouré aussi. Donc, ça vraiment. Puis il y avait la locomotive avec Lucian. Puis en même temps, il y avait aussi du côté, il y avait le groupe gym avec Jean-Pascal. Il y avait toujours aussi une certaine rivalité entre les deux organisations qui faisait que ça moussait aussi la promotion des deux.
On ne pouvait pas prendre main de briques.
Non, exact.
Par la suite, tu as été quoi, 6-7 ans là-dedans?
Oui, j'ai fait 8 ans, dans le fond, avec exact. Donc, puis de là, Lucian est devenu champions du monde. Ouais. On a eu les combats après ça sur TVA. Ouais. On est allé. Il y avait la classique du Super 6 à l'époque aussi. Là, oui, dont Lucien était participait pas, mais justement, il y avait le championnat qui était là, puis Lucien qui continuait sa carrière avec ses défenses.
Il ne pouvait pas être des Super 6. Il y avait une histoire en tout cas.
Exact, à l'époque. Donc.
C'était quoi, toi, ton rôle, tu sais, peut-être pour situer nos auditeurs, ton rôle au sein de l'organisation, tu sais, parce que là, on parle de boxe, on parle de champion du monde, on parle de co-chambreur, finalement, quand tu as commencé, mais ton rôle principal, c'était les relations médias? Et...
Exact. Ça a commencé avec les relations de presse, relations médias. Ça s'est suivi après ça avec plus le côté marketing, avec les billets aussi, la vente de billets, la relation avec Evenco. Donc,
c'est-tu toi qui disais, exemple, à l'athlète, là, tu dis ça, tu dis pas ça, tu sais, des fois...
Avec Lucien, beaucoup. Stéphane et moi, les deux, on était pigeants aussi, évidemment, parce que, tu sais, on alignait les messages, on était
pour qu'ils paraissent bien, naturellement. Ben, c'est l'objectif.
C'est notre travail aussi. Ouais, en fait, il y avait un travail de bien faire paraître Lucien, bien sûr, et les autres boxeurs d'Interbox aussi, parce qu'on avait une écurie, là, fait, de boxeurs.
Absolument.
Mais en même temps, c'est que ça devait servir pour la promotion de mousser le combat, que les gens s'intéressent aussi
Si tu aimes le boxeur, tu vas vouloir le suivre, tu sais, s'il y a une belle image.
Exact. Fait que c'était de le positionner aussi, mais comme je disais, Lucien, ça a été vraiment une locomotive. Le fait qu'il apprenne le français.
C'était pas un gars difficile à diriger. Hein?
Ben, on ne pouvait pas y passer n'importe quoi non plus.
Oui,
très intelligent.
Ça, c'est vrai. Il y avait un côté un peu. Oui, tu as raison. C'est vrai.
C'était pas
Yes Man.
Non, c'est ça.
Mais si c'était logique, il te suit.
Absolument.
Oui, c'est ça.
Absolument.
Le gars brillant. Écoute.
Vraiment.
Je ne suis pas inquiète pour lui, pour le futur de sa carrière. Ensuite, tu as eu un appel aussi avec les Alouettes.
Exactement.
Une autre petite équipe, le fun.
Oui, puis ça. Tu sais, justement, d'avoir... Puis c'était une évolution aussi dans mon cheminement. Ouais. Donc, tu sais, puis les Alouettes, ben il y avait eu l'époque de Larry Smith, tu sais, pendant plusieurs années. Là, Larry était parti. Il y avait eu Ray Lalonde qui avait été président pendant un an.
Ça a été des gros noms, ces gens-là qui ont été... quand je dis gros noms, des bons influenceurs.
Tout à fait. Ouais. Puis... Il y avait eu l'agrandissement du stade aussi peu de temps avant. Donc, fait quand je suis arrivé, moi, à la tête justement des communications marketing de l'équipe, il y avait une nouvelle personne au partenariat, Jean Couvrette, puis il y avait aussi un nouveau président par intérim qui était Mark Whitman, qui est revenu là, d'ailleurs à la présidence des Alouettes là, depuis l'achat des Alouettes par Pierre-Carl Péladeau. Donc, on était... trois nouveaux en tant que tel, même si Mark, ça faisait des années, peut-être une vingtaine d'années.
C'était quand même un retour.
Mais pour lui, c'est ça, c'était un nouveau rôle de prendre la présidence de l'équipe. Fait que c'était vraiment le fun. On a retravaillé le branding, on avait retravaillé des promotions pour les billets. Puis, tu sais, les Alouettes, il y avait un taux de renouvellement de billets de saison qui était proche du 100% là, à chaque année. Mais là, l'agrandissement du stade... Quelques, tu sais, pas de Coupe Grey depuis 2010. Ensuite de ça, le départ de Tressman... Puis là, moi, dans ma première saison, quand je suis arrivé aux communications, mais ça a été plus de quarterback parce qu'Anthony Calvillo a fait sa commotion cérébrale.
Ah oui.
Contre les Rough Riders, je me rappelle encore de où j'étais quand je regardais le match. Puis quand on a vu Anthony tomber, on s'est dit, OK, là, ça va être difficile. Puis il n'est jamais revenu, en fait, dans le fond, de ce match-là. Et donc, c'était encore là de vivre une transition parce que là, tu n'as plus les Cahoons, tu n'as plus... un Calvillo, qui était vraiment des gros noms aussi. Donc, Étienne Boulay venait de quitter l'organisation aussi, il était rendu à Toronto. Fait que ça donnait quand même un défi supplémentaire. Puis là, on est souvent aussi sur la notion de l'espoir dans le milieu sportif,
on
sur
se
l'émotion.
Croise les doigts.
Et voilà. Fait que là, il fallait vraiment de plus en plus miser là-dessus. Fait que c'était à la recherche d'un corps arrière, veux pas, pour les opérations football. Puis quand tu es au marketing, ben, t'attends, t'espères que les opérations football vont trouver
c'est ça que
justement.
Tu veux vendre, hein? C'est ça, c'est comme un peu ton... C'est ton... Comment tu appelles ça? C'est ce que tu as de besoin hein, pour mousser ton marketing.
C'est l'équivalent un peu, tu sais, Lucien, c'est la locomotive d'Interbox.
Ouais, exact.
On pouvait bien... Donc, c'était qui notre locomotive, mettons, aux Alouettes? Fait qu'on on avait un Luc Brodeur-Jourdain qui était incroyable, tu sais, un très bon
vendeur.
PR pour l'équipe, mais sauf que Luc, il touchait le ballon à chaque jeu parce que c'était lui le snapper, mais jamais t'entendais son nom, tu sais.
Non, c'est il faut faire un but et une pause, tu sais.
Exactement.
Non, je comprends. Après ça, on a eu, je pense, là, tu me corriges dans les dates, là, j'essaie de me suivre dans mes notes, 2016, 2015, 2016, on s'en va avec Québécois.
Exactement.
Donc, non, on le sait pas en 2015, 2016, qu'en 2023, ils vont acheter les Alouettes. Là.
Exactement. Il n'y a aucun lien.
Là.
Non, exactement. Puis, tu sais, je voyais justement Martin, j'entendais Pierre-Carl Pelladeau dans, dans sa conférence de presse sur l'achat de l'équipe mentionner le nom de Martin Tremblay à occasions. Puis, je disais, Martin, tu sais, c'est drôle quand même là, de voir qu'ils sont prêts alors que moi, je l'étais dans l'organisation à. Il y a plusieurs années par le passé. Mais oui, en fait, dans les années de la boxe, on avait une super belle collaboration avec Québécois, justement, le groupe TVA. Puis donc...
Ça, c'était avant l'amphithéâtre, là.
C'est ça. Donc, il n'y avait pas... On faisait des combats à Québec, mais au Colisée.
Au Colisée, Pepsi. L'ancien, c'est ça.
Exact.
Mais qui est encore là, mais qui...
Oui, mais là, il est... je pense qu'il est...
Je sais pas ce qu'ils vont faire avec. Elle sait-tu, toi?
Non, mais en tout cas, on a un dossier des fois similaire à Saint-Hyacinthe. Ouais. Je me dis, on va voir ce qui va se passer à Québec, peut-être.
Ben oui.
Mais toujours est-il que, avec Martin Tremblay, qui était vice-président aux communications chez Québécois à l'époque, m'avait trouvé une opportunité au sein de la division sport et divertissement. Donc,
toi, t'aimes pas le sport, en plus.
Non, ça, c'est ça. Tombe ça, mal. Ça allait pas bien. Disons que ça a pas été long, la réflexion avec l'opportunité.
Excusez-moi, je vais réfléchir ce week-end. Oh, finalement, je vais y aller.
Puis à peu près, peut-être même pas un an, suivant l'ouverture du Centre Vidéotron, ici à Québec.
Ouais.
Donc, qui était quand même un dossier...
Il sent encore le nœud.
Oui, absolument. Yes. Donc, une opportunité en or.
Ben, je comprends.
Il y avait peut-être la possibilité à l'époque, à ce moment-là.
D'avoir est-ce que l'équipe professionnelle.
Exact. Est-ce que la LNH va permettre deux expansions avec une à Las Vegas, une à Québec?
Ouais.
Il y avait aussi toute la réputation du Centre Vidéotron à asseoir ici dans la ville de Québec, puis est-ce que les gens adhèrent avec l'amphithéâtre,
ben
puis il y a des super spectacles.
J'ai
ma place, exactement.
Mais, écoute, on l'a démontré à maintes reprises qu'on était prêts comme amateur de hockey, de recevoir nos entiers. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça l'a pas tombé dans l'oreille de la bonne personne.
Malheureusement. Puis pourtant, on a un amphithéâtre ici. L'amphithéâtre, il est incroyable. Mais le Centre Vidéotron, techniquement aussi, il est une belle équipe de gestion en plus.
Ben,
donc,
oui.
Je pense que tous les ingrédients
sont là.
Tout est là. Mais ça a été quand même des bons dossiers pour moi en arrivée. Puis avec Martin, puis Myriane Collin à l'époque, qui était gestionnaire aussi. Pierre Dion, qui était président de... Donc, on a fêté là un an. Il y a eu justement la décision de la Ligue nationale de ne pas octroyer une expansion à Québec.
Ouais.
Après ça, il y avait... Mais tu sais, on rencontrait des promoteurs de spectacles. On faisait valoir le marché, la ville. On essayait d'attirer... Tu sais, je voyais qu'il y avait la lutte récemment au Centre Vidéotron. Exact.
Ben
puis moi, c'était des projets, ça, à l'époque, qu'on espérait aller chercher, puis qu'on travaillait pour... On montait des dossiers, puis...
À défaut d'avoir du hockey professionnel...
Ça prend des événements et tout ça. Il y a peut-être une possibilité d'une équipe de basket.
Ouais,
je suivais un peu l'actualité et tout ça. Donc, les Remparts, cette année, ont eu une année extraordinaire.
C'est un franc succès, les Remparts. Ouais.
Exact.
Il y a eu 20 000 spectateurs à quelques reprises.
Tout à fait.
Pour les Remparts,
c'est quelque chose.
C'est quelque chose, certain.
Oui. Hey. Donc, une super belle opportunité, mais qui amenait beaucoup de routes, parce que là, c'était vraiment l'alternance
entre le bureau... Parce que toi, t'habitais encore à Saint-Hyacinthe.
Oui, à Belleuil, exactement.
À
Belleuil,
ben
pas très loin, sur la rive sud de Montréal. Mm-hmm. Donc, ça faisait beaucoup de routes Québec-Montréal, tout ça. Les enfants commençaient à vieillir aussi, plus d'activités. Là, ça reposait beaucoup sur Catherine. Puis, par pur hasard, j'ai vu une opportunité après que c'est ouverte à Saint-Hyacinthe au niveau de l'Expo agricole, qui est le plus grand festival agricole au Québec, qui est un événement que vraiment, là, tu sais, tout jeune, j'y suis allé année après année.
Ben oui, t'entends de chez vous, là, t'es dans tes racines.
Exactement.
Je retourne avec
ma mafia, ma scoutaine, tu sais, aussi avec tout notre monde. Donc, quand l'opportunité s'est présentée, j'ai appliqué sur le poste, puis j'ai eu, dans le fond, le plus ironique, c'est que j'ai obtenu le poste de directeur de la programmation pour l'Expo agricole, que finalement, j'ai jamais fait une programmation de l'Expo parce que ça a été... Je suis arrivé en décembre 2019, puis suivi au mois de mars 2020.
La COVID.
La COVID.
Donc,
puis l'Expo, en fait, ça a été sa première annulation. On était à notre 186e édition cette année.
Première fois à 186 ans.
Que ça a été annulé en 2020. à cause de la pandémie. Fait que ça a quand même, ça a été un choc
à l'époque. Un choc, absolument.
Tout à fait.
Puis là, ben toi, tu rentres là pour certaines fonctions, puis tu te ramasses à faire d'autres choses parce que, justement, la direction, ça a bougé beaucoup.
Ça a bougé beaucoup, puis, tu sais, je dirais que la pandémie a quand même eu, pour nous, un bon côté parce que, justement, ça faisait quand même... On était dans de la tradition puis de la continuité depuis plusieurs années. Donc là, on ne peut pas faire notre expo comme on la connaît. Comment qu'on peut faire présent? Ouais. On avait fait une édition virtuelle de l'expo agricole à ce moment-là. Fait que tu parlais tantôt du côté entrepreneur.
Oui.
Mais c'était ça aussi. C'est comment...
Ben, c'est comme si c'était ta business. Hein? Tu exactement. Tu dis, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on fait, là? T'sais? Avec la COVID hein, puis toutes ces affaires-là, toi, tu étais directement dans, c'est quoi, 2020?
Oui, 2020, exactement. Donc moi, quand je suis arrivé en poste en décembre 2019, on avait déjà commencé à travailler notre programmation. Puis là, finalement, arrive la COVID. Une première annulation en 180... Ben, à l'époque, c'est 183, mettons, les années d'existence de l'événement. Donc, ça a donné un coup. D'un autre côté, ça a permis quand même à trouver un projet. T'sais, on voulait rester présent pour nos visiteurs.
On se questionne,
exactement. T'sais, on veut pas rester à rien faire. On est ébranlé, oui, mais on veut pas non plus rester les bras croisés à attendre que ça passe. Donc, on a fait un projet virtuel. Dans le fond, on a recréé une expo avec du contenu, des quiz, des vidéos.
Ça a bien été.
On a fait des spectacles. On avait fait 2 spectacles virtuels aussi. On avait 100 questions sur l'agriculture, 10 par jour, parce que l'expo, c'est un événement de 10 jours. Donc, on avait respecté, puis on ajoutait des contenus au fur et à mesure. Hein? Beaucoup d'éducation. Ouais, c'est ça qu'on souhaitait que les gens... En fait, ne perdent pas, en notre absence durant l'année de la COVID. Ça a été une édition adaptée en 2021, mais ça a été vraiment en 2022 qu'on a pu reprendre une édition normale, en présentiel, vraiment avec un fort achalandage. Et
ben
moi, là, mes fonctions ont changé. Ouais.
Ben là, ça doit être fou, 2022.
Ah, ça a été une année record. On a eu 204 000 visiteurs.
Quand même.
Ça a été...
Sur
10 jours.
C'est une moyenne de 20 000 par jour.
Il a vanté, pas mal, c'est ça. On a senti l'engouement. Ça a été vraiment un feu roulant, pendant...
Là, 2023, c'est quelle date, donc?
Oui, fait que là, on a fait notre 186e édition, dans le fond. C'est dans les vacances de la construction, l'expo.
Ah, elle vient de finir.
Oui, on a terminé exactement. Puis là, ben cette année, c'est pas une météo extraordinaire au Québec durant l'été. On a eu 7 jours de pluie sur 10.
Ça n'a pas de bon sens.
Mais on a quand même tiré notre épingle du jeu avec 163 000 visiteurs. Fait que pour des journées plus tranquilles avec la pluie, ça a été des journées fortement achalandées quand on avait du beau temps. Puis l'expo, c'est 163 000 visiteurs, mais c'est aussi 1 000 animaux de la ferme qui sont à l'événement. Ouais. Donc, qui sont là, qui mangent, qui boivent, qui ont des besoins, etc. Donc, c'est beaucoup de gestion, c'est beaucoup de logistique... des spectacles musicaux, un rodéo, un derby de démolition, tu sais, de tracteurs. Donc, à même l'événement sur 10 jours, il y a beaucoup d'à côté, effectivement, un parc de 25 manèges. Donc, c'est vraiment un gros événement qui attire de partout au Québec, bien sûr, mais logistiquement, c'est une grosse machine.
Puis toi, tu diriges l'ensemble de cet orchestre-là, comme on dit.
Oui.
Puis à ce moment-là, il y a combien d'équipes?
Donc, l'expo, notre organisation de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, on est une vingtaine d'employés
quand
à
même.
Temps plein.
Wow.
Puis après ça, sur nos événements, quand on arrive à l'expo, mais là, on va monter jusqu'à 200-250 employés pour la réalisation de cet événement-là.
Pour cette période-là, oui.
Exact.
Wow.
Puis là, fin juillet jusqu'à la fin août, là, c'est vraiment une période d'achalandée pour nous parce qu'on a l'expo agricole. On a 3 de nos 4 grands événements. On a l'expo agricole, on a ce qu'on appelle le suprême laitier et on termine là, avec Expo Champs. Pour ceux là, qui voient sur le bord de l'autoroute 20 à Saint-Liboire, là, une terre de 50 hectares qui devient un trade show pendant 3 jours.
Une espèce de showroom, comme les concessionnaires auto, mais c'est des bébelles nos amis cultivateurs.
Exact, des parcelles de semenciers aussi.
Les
donc, on
machines
des parcelles,
coûtent pas cher, hein, ça?
De plus en plus cher. De plus en plus
ça
cher.
Pas de bon sens, hein?
Mais c'est des machines aujourd'hui.
C'est essentiel.
L'automatisation, la technologie est essentielle à l'agriculture parce que.
Mais il n'y aura pas assez de main.
Il n'y aura pas assez de main-d'œuvre. Exactement. On les voit, les enjeux avec la main-d'œuvre. Ça prend beaucoup plus de main-d'œuvre étrangère, mais ça prend beaucoup aussi de. Je dirais, la technologie permet aux agriculteurs et agricultrices d'aujourd'hui de pouvoir encore être productifs à la ferme, bien sûr, d'être rentables aussi.
Puis être obligé d'être sain dans les rangs. T'sais, ils peuvent être 10 au lieu de. Je dis n'importe quoi, mais tu comprends qu'ils seraient obligés encore d'être 100 s'il n'y avait pas cette machinerie-là, cette technologie-là.
Voilà.
Puis l'autre aussi, tu m'as dit tantôt, il y avait le concours aussi des vaches laitières.
Oui, c'est ça qui se déroule cette semaine. Là.
OK.
Donc, ça, c'est des éleveurs de partout au Québec.
C'est un concours de beauté, ça, quasiment. Là.
Exactement. Donc, c'est pour quelqu'un qui est extérieur au milieu, quand on dit que le concours, c'est le plus beau pied, en fait, de la vache. Ben, c'est quand même particulier.
Ben,
Mais il y a toute une technique pour arriver à ce que la vache soit, on va dire, pique au bon moment.
Ben
avec tout ça, avec les techniques.
Hein,
tout à fait. La faire circuler, après ça, à ce que la vache, mange bien, puis que la traite soit faite au bon moment, etc.
Ouais,
donc, elle soit bien clippée, c'est bien.
Non, au bout du lait, là, on pense pas à ça. Là.
Ouais,
on pense pas à tout l'ouvrage qu'il y a en arrière. Puis c'est des concours comme ça qui nous permettent justement de voir la qualité de cette industrie-là, parce que
exactement.
Il y a du monde en arrière de ça. Hein?
Il y a beaucoup de monde, puis c'est une fierté pour les agriculteurs et les agricultrices là-dessus aussi.
Mm-hmm. T'es-tu d'accord? On dirait que la province de Québec, on est fiers de ce côté-là qui nous... tu sais, on parle de rang, là. Il y a des gens, des fois, qui ont grandi dans des rangs, puis tu deviens du jour au lendemain dans une ville, tu sais, puis tu deviens du jour au lendemain dans une industrie.
Ah, puis t'as raison, parce que recul de plusieurs années, tu avais soit un membre de la famille, tu avais un cousin ou tu avais un ami qui était justement dans le milieu de l'agriculture. Aujourd'hui, ce côté-là, c'est perdu. Puis de là, les foires agricoles, les expos comme on organise, puis il y en a à peu près 28 au Québec. Là, donc, il y en a de différents niveaux. Mais en même temps, ça fait partie de la culture. Nous, on est à 187 là, en 2024. Il y en a, Bedford sont en avance sur nous de quelques années. Mais tu sais, c'est proche quand même 190 ans d'existence d'un événement. Il y a beaucoup d'histoires. Donc, puis ça a encore sa place parce que c'est encore populaire. Donc, ça s'est réinventé, ça a continué d'innover, puis ça a toujours trouvé une façon d'intéresser le public.
Moi, j'aime le côté aussi pédagogique. Parce
que
les enfants, les écoles, tu sais, je me rappelle sûrement que dans ton coin, c'est pareil à Saint-Hyacinthe, mais ici à Québec, il impliquait beaucoup les écoles.
Oui.
Alors, pour que les enfants, justement, comprennent, bon, c'est quoi ça, ce qu'on mange, ce qu'on boit, puis, tu sais, les animaux, c'est...
Tu sais, le yogourt, il vient pas de l'épicerie en tant que tel. Il y a tout un...
L'enfant, il faut qu'il comprenne ça, c'est
et
fun.
Voilà. Mais aujourd'hui, encore là, on parlait de technologie pour les producteurs, mais d'un autre côté, même pour l'événementiel aussi, on est capable de le démontrer, ça, aujourd'hui, avec cette technologie-là, d'intéresser. Fait que oui, les enfants vont venir manger une barbe à papa, ils vont venir faire un manège, ils vont venir... mais ils vont être impressionnés par la grande moissonneuse-batteuse, ils vont être aussi... Ils vont être animés par une activité qu'on va leur faire, ils vont la toucher, ils vont, etc. Donc, ce côté éducatif-là, ludique, il est super important.
Ben oui. Dis-moi donc, c'est une OBNL.
Exactement. Hein?
Puis là, je pense que tu me disais aussi en dehors des ondes tantôt que vous avez sous votre juridiction présentement deux organismes.
Oui, voilà. Donc, on a une OBNL aussi qui gère le parc immobilier. Donc, on est propriétaire de bâtiments... qui servent à la... Je dirais c'est un mini centre de foire, un plus petit centre de foire qu'on a ici, comme vous avez ici à Québec. Donc, on a... puis ces pavillons-là sont loués à l'année.
Ah oui.
Donc, il y a des événements...
De qui est là, marketing.
En fait, ça fait partie de notre équipe qui l'opère, qui fait aussi la commercialisation de ces espaces-là. Donc, c'est loué pour des événements de touristes d'affaires, des salons, des expositions. Puis quand c'est pas ce style d'événement-là, ben c'est on offre nos installations aussi, on loue nos installations, en fait, à la commission scolaire de Saint-Hyacinthe. Donc, il y en a un, c'est un centre de soccer intérieur qui sert au sport-études. Donc, d'octobre à, je dirais, la mi-juin. Donc, nous, on a investi dans une surface de synthétique, de tapis synthétique. C'est un grand casse-tête de 68 000 pieds carrés que quand on a un salon exposition qu'on démonte, qu'on entrepose dans le pavillon.
C'est quand même une grosse infrastructure.
Oui, on reçoit le salon, ensuite de ça, le salon quitte, on fait le ménage, on réinstalle notre surface, puis là, le sport-études revient.
C'est des bons locataires.
C'est des très bons locataires.
C'est fun pour un entrepreneur de voir que justement tes choses sont louées, mais sont aussi payées.
C'est ça. Mais il faut que ça roule. C'est ça. Ça nous prend un niveau d'activité important pour être en mesure de. Surtout là, avec la hausse des taux d'intérêt, ça, c'est important d'avoir un bon roulement dans nos.
Parce que votre immobilier, vous la payez à toi et moi aussi.
Elle arrive vite en plus.
Elle arrive vite. On n'a pas eu la chance de payer nos maisons cash, mettons, tu sais.
Non.
Aïe, aïe, aïe. Aïe, c'est le fun. Merci beaucoup. Je suis content d'apprendre tout ça, David, parce que. Puis je suis content aussi de partager à nos auditeurs de quoi différent. Parce que là, on parle de gestion. C'est sûr que tu as de la gestion économique, tu as de la gestion de personnel, tu as de la gestion, là, tu parlais tantôt d'immobilier, mais ça reste que tu es dans un milieu qui est quand même, on va dire, le fun. Tu sais, c'est pas plate, là, ta job, là.
Pas du tout.
Hein? Parce que t'as pas l'air d'un gars qui est à bout, là.
Non, vraiment pas. Puis... c'est là que ça... Je pense que la variété aussi, tout est interconnecté. Ça reste quand même un écosystème parce que, tu sais, veux pas, nos infrastructures servent à notre mission également, soit l'éduquer, parce que quand on reçoit 160 000 visiteurs dans nos installations durant l'été, ça sert à notre mission. Mais après ça, c'est du jour. Fait qu'il faut aussi les opérer à longueur de l'année, puis c'est là qu'on va chercher des activités connexes. Puis c'est sûr que l'agriculture, ça a toujours été un aspect communautaire, accès à la communauté.
C'est rassembleur.
C'est rassembleur. Donc, nos espaces servent à ça aussi. T'sais, donc, c'est on essaie de rester vraiment, je dirais, connecté à ces éléments-là. Puis, puis justement, tu sais, à petite équipe, donc, c'est une petite équipe de travailleurs, tu sais, qui met beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Puis exactement, exactement.
Puis toi, tu t'agis en bon père de famille.
J'essaye, le plus possible, c'est ça. Je veux, tu sais, c'est des gens qui s'investissent beaucoup, puis c'est sûr que moi, je veux aussi leur rendre la vie plus facile. Donc, mais c'est là que ça devient quand même un défi aussi, tu sais, d'avoir un...
Faut toujours t'améliorer ta sauce.
Toujours.
Tu sais, tu peux pas garder la même sauce. Non. Faut qu'elle devienne bonne encore, puis tu sais, la formule est excellente, mais on l'améliore.
Tu veux qu'ils l'aiment toujours, tu sais,
Tu veux avoir des fans fidèles, tu sais, qui reviennent, parce que, tu sais, on dit souvent en vente, on était justement dernièrement avec des spécialistes de vente, ce qui est difficile, c'est pas de vendre, c'est de revendre. Tu sais, c'est la personne te rachète une autre fois. Dis-moi, en terminant, qu'est-ce que tu dirais au petit David, là, qui avait 15 ans, là, puis qui voulait juste être journaliste sportif, puis qui tripait ses sportifs? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Parce que je sais que dans ton discours tout à l'heure, tu parlais du début, tu étais dans les rangs.
Mm-hmm.
Tu étais déjà dans le monde, tu avais des amis qui étaient fermiers. Pis
exact.
Hein? Qu'est-ce que tu lui dirais à ce petit gars-là? Là?
Pis c'est spécial parce que justement... quand j'ai joint la Société d'agriculture en décembre 2019, il y en a beaucoup qui ont resté surpris. Mon Dieu, tu quittes Québécois ou tu quittes justement le milieu sportif ou du divertissement pour...
les vedettes.
Exactement. T'sais, j'étais chanceux, j'ai côtoyé un paquet de monde. Vraiment, on a eu des soirées privilégiées.
Juste de coucher avec Éric Luca, là.
ça fait...
On le salue, notre ami Éric.
Oui, exact. Puis, donc, je pense que justement, ça... Je ne dirais pas que ça boucle la boucle parce qu'il me reste encore plusieurs années.
Oui, t'es encore jeune.
Évidemment, mais justement, c'est un retour à quelque chose qui m'a toujours passionné.
Des sources.
Exactement. À certaines racines, je suis un mascoutin d'origine. Je suis fier de ma ville. J'ai toujours aimé... On a organisé le championnat canadien, de Midget 3 avec les Gaulois au mois d'avril. Puis c'était le fun parce que c'était toute la même gang de bénévoles qu'on était aux Jeux du Québec en 2005. On s'est retrouvés proches 20 ans plus tard.
Quand même.
Puis c'était la même chimie, exactement. Donc, on dirait que ça m'a rapproché. Puis c'est... Je pense que c'est le côté...
T'es revenu sur la terre.
Je suis revenu... Ouais. Mais
non, mais c'est niaiseux. Mais...
Exact.
C'est un beau parcours, c'est un beau survol. Tu sais, l'Allemagne, les championnats du monde, les soirées, parce que on connaît la gang, on le sait que c'est des gens festifs. Les gens aiment ça. Les cages au sport sont dans la fête.
Stéphane aussi était dans la fête.
Stéphane Larouche, on connaît le moineau.
Ouais.
Fait que tu sais, tout ça ensemble fait que tu as été dans un monde un peu, on va dire, extraordinaire. Puis là, tu reviens avec, justement... tes racines, donc c'est le fun.
Puis avec autant de plaisir, tu sais, il y a des...
Ben oui.
C'est un côté tellement, tu sais, on... On s'assoit souvent là, mais pendant l'expo ou pendant là, le suprême là, qui est cette semaine, mais on s'assoit avec les éleveurs, puis tu jases, a des belles conversations, c'est le fun autour d'une bière, puis s'occupent de leurs animaux, etc. C'est authentique, c'est vrai, c'est des gens super accessibles. Donc, vraiment, j'y dirais en fait, crème. Ça a été peut-être sinueux à certains moments, comme parcours et tout ça.
C'est des parcours obligatoires, puis c'est ce qui fait que t'es le gars que t'es aujourd'hui. On dit souvent ça, hein? On est la personne qu'on est parce que justement, on a passé à travers ce qu'on a eu à passer. Et on a vécu les expériences qu'on a eues à vivre. Donc, David, merci beaucoup.
Encore merci de l'invitation. Belle conversation.
Nous autres, ce qu'on aime laisser à nos auditeurs, c'est que je laisse le mot de la fin à mon invité, puis il nous dit un petit conseil, petit truc, sans prétention, dans ton mot de la fin. Donc, peut-être nous laisser un là-dessus. Les auditeurs nous envoient des courriels pour nous dire qu'ils apprennent des choses. Alors, ils aiment les entrevues en fonction des fois des petits trucs qu'ils ont appris, tu sais. Donc, je te laisse le mot de la fin là-dessus, puis je vais reprendre à la fin pour dire bonjour à nos auditeurs.
Oui, tout à fait. Mais moi, ce que je peux peut-être mentionner, j'ai toujours été chanceux d'être bien entouré. J'ai eu des bons modèles devant moi qui m'ont, dont je me suis inspiré, de qui j'ai posé souvent des questions, j'ai beaucoup écouté aussi. Et c'est dans les moments, plus durs qu'on apprend aussi à... Ça va paraître cliché, peut-être qu'il y en a plusieurs aussi des fois qui vont réaliser ça, mais ça reste que c'est vraiment dans un moment plus dur que là, on va repuiser justement dans des énergies qu'on pensait pas qu'on avait en dedans de nous. Et ça nous amène toujours plus loin. T'sais, moi, je dirais souvent avec ma femme, quand on en parle, puis même avec des amis, on revient d'une fin de semaine à New York avec des amis du cégep avec qui on est super proches. Puis justement, tu sais, moi, j'ai toujours voulu accéder à un poste de gestion. C'est en moi depuis, je pense, plusieurs années. Puis au fur et à mesure du parcours, une petite expérience de plus, un acquis, une compétence supplémentaire... a fait que j'en arrive aujourd'hui dans un rôle de direction générale dans ma deuxième année, en fait. Puis la deuxième année, je la trouve plus dure que la première parce qu'on dirait justement, tu sais, t'as une bonne première année. Après ça, tu vas essayer de t'améliorer. Mais il y a des choses qui arrivent. Tu vas être meilleur des fois. T'sais. Mais c'est ça. Je trouve ça vraiment...
S'entourer.
Oui.
S'entourer. Écouter. Écouter. Écouter, les amis. Hein, c'est important. On a deux oreilles et une bouche, mon grand-père disait. Hein?
Voilà.
Merci, David.
Merci, Réjean.
Nous autres, dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du plaisir.
Merci d'avoir écouté la jungle des affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans la jungle des affaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.